أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آل عمران کی آیت ہے.
Ce verset que j'ai récité est tiré de la sourate آل عمران. Je vais commenter sur la partie où il dit « Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'amaruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah ». La traduction de cette partie est que vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité, vous enjoignez ce qui est bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ici, l'on trouve mention de l'importance d'être un musulman et les buts que doivent atteindre un musulman. Être musulman est une chose importante, il n'y a point de doute à ce propos. Un musulman croit dans cette dernière charia parfaite et complète révélée au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette charia a été révélée dans la forme du Saint-Coran et Allah a déclaré à ce propos « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » à savoir que nous avons révélé ce dhikr, nous avons révélé le Coran et certainement nous en serons les gardiens. C'est cette charia qui a été préservée dans son état originel sous la forme du Coran. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons ces promesses divines s'accomplir avec éclat. Cette fierté est l'apanage de l'islam aujourd'hui dans le monde de la religion. Et seul l'islam aura cette fierté jusqu'au dernier jour. Un vrai musulman doit se demander qu'après cette annonce faite par Dieu, est-ce qu'il lui suffit d'en être fier uniquement? Quel est le rôle que doit jouer un musulman ordinaire dans le fait que l'islam jouit de ce statut sublime? Quel est le rôle qu'il doit jouer dans le fait que l'islam a porté la dernière charia? Allah a qualifié les musulmans de la meilleure des oummas, mais quel est l'apport d'un musulman à titre individuel dans le fait que cette oumma est la meilleure? Quant à Allah, il a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète porteur de loi. C'est lui qui a révélé le Coran comme le dernier livre de loi, et jusqu'aujourd'hui, il a préservé le Coran dans son état originel. Allah attend du croyant qu'il accomplisse de bonnes œuvres après avoir professé sa foi. Et il l'ordonne d'accomplir ses bonnes œuvres. Il a donné des responsabilités aux musulmans. Dans ce verset, Dieu a évoqué ces mêmes responsabilités. Il a déclaré que vous êtes la meilleure des oummas en raison du fait que vous assumez ces responsabilités. Allah n'a pas conféré ce titre sans raison aux musulmans. En leur conférant ce titre, il en a aussi donné les raisons. Il déclare que vous êtes la meilleure des oummas pour ces raisons. Lorsque vous allez posséder ces qualités, c'est là que vous serez les meilleurs d'entre tous les peuples. Tout d'abord, vous avez été créé pour le bien-être de l'humanité. Vous n'avez pas été créé pour le bien-être d'un peuple spécifique. Vous avez été créé pour le bien-être de toute l'humanité. Ensuite, Allah déclare que vous encouragez les autres à faire le bien. Cette responsabilité incombe à toute la Oumma, à savoir qu'ils doivent enjoindre le bien et interdire le mal. Il déclare donc « Watanhauna anil munkar ». Vous êtes le meilleur d'entre tous les peuples parce que vous interdisez le mal et parce que vous avez une foi parfaite en Dieu. L'histoire témoigne qu'au cours des premiers siècles de l'islam, les musulmans ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs en tant que peuple. En tant que dirigeants, ils ne faisaient pas de distinction de race ou de religion. D'une part, ils étaient justes et équitables, et d'autre part, ils ont éclairé le monde grâce à la connaissance. Si en prêchant le message sublime de l'islam, ils ont pu réunir les gens sous la bannière de l'islam, ils ont aussi montré de nouvelles voies vers les connaissances et les sciences. D'une part, ils ont répandu le bien et ils ont essayé de mettre fin au mal. Et ils ont fait des djihads pour cela. Ils ont tout fait pour le bien-être de l'humanité. Mais par la suite, ceux qui étaient victimes de leur penchant libertin, ceux qui étaient avides de ce bas monde, ont abandonné cet enseignement. Et cela en dépit du fait qu'Allah a promis que cet enseignement sera préservé et protégé par Dieu. Ils ont tourné le mal aux bonnes œuvres et à la vertu et se sont empêtrés dans le mal. Et ainsi, grand nombre d'entre eux furent privés de ce statut de Khayri Umma, de la meilleure des Umma. Et un poète a déclaré à ce propos que nous avons perdu ce que nous avions reçu en héritage. Dieu, quant à lui, a promis de préserver le Coran. Il n'a pas promis de préserver les paroles du Coran comme on préserve des histoires ou des légendes. Il a promis de donner naissance à une jamaat qui va mettre en pratique ses enseignements. Il va donner naissance à cette Ummah afin que cette communauté soit présentée de nouveau comme la meilleure des Ummahs au monde, afin qu'ils puissent encourager les autres à faire le bien et afin qu'ils puissent aussi transmettre le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre, afin qu'ils abandonnent le mal et les vices et afin qu'ils puissent servir l'humanité sans distinction de race ou de couleur. Et pour cela, Allah a envoyé le Messie premier alayhi salam suite à ses promesses. Le Messie premier alayhi salam, qui est l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est venu afin qu'il puisse ramener de nouveau sur terre la foi. Il est venu pour rétablir de nouveau la gloire de l'islam sur terre. Il est venu afin qu'il puisse prouver de nouveau au monde que l'islam est la meilleure des religions et que les musulmans font partie de la meilleure des ummas. Il est venu présenter cela au monde afin que cela soit évident à tout le monde comme le soleil en plein jour. Donc aujourd'hui, c'est la jamaat du Messie premier l'Islam qui jouit de ce statut. Certes, il peut y avoir parmi les autres musulmans ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui interdisent le mal. Mais Allah déclare que vous êtes la meilleure des communautés. En tant que communauté, en tant que Ummah, vous devez interdire le mal et enjoindre le bien. Et cela ne pourra pas se faire tant qu'il n'y a pas d'unité dans la Ummah. Il y a dans les pays musulmans ceux qui, en tant que communauté, font de bonnes œuvres. Il y a certes ceux qui enjoignent le bien et interdisent le mal. Mais dans chaque pays, les gens suivent leur leader ou leur alim et travaillent selon leur façon. Combien sont-ils les pays musulmans qui s'unissent pour transmettre ensemble le message de l'islam? Il règne de la dissension parmi tous ces différents groupes musulmans. Qui a donc l'occasion de propager le message béni de l'islam aux autres? Dans le monde, qui a l'opportunité de propager ce message jusqu'aux confins de la terre? Quelques jours de cela, par hasard, je suis tombé sur une chaîne de télé islamique. Dans une émission, il y avait un ulema chiite et un ulema sunnite qui parlaient à propos de la Nabouwa, peut-être. Je n'ai regardé que les quelques dernières minutes de cette émission. Ils critiquaient peut-être le Messie premier, alayhi salam. Ils avaient donc les mêmes points de vue concernant le Messie premier, alayhi salam. Mais le chiite parlait du point de vue de sa doctrine et le sunni le critiquait en disant que cela doit être ainsi et ainsi. Et quand le sunnite parlait du point de vue de sa doctrine, le chiite l'arrêtait en disant que cela doit être ainsi et ainsi. Ils étaient certainement venus à la télé pour attiser la haine à notre encontre. De leur suffisance, ils étaient venus préserver la Oumma d'une grande dissension, mais ils étaient eux-mêmes victimes de cette dissension. Non seulement qu'ils en étaient des victimes, mais ils étaient de mauvais exemples pour les autres. Il était évident de l'expression qui se lisait sur leur visage qu'ils se détestaient. Ils lancent des fatwas de kufr les uns à l'encontre des autres. Et un simple musulman qui veut tout simplement voir la gloire de l'islam est tout bonnement perplexe en les regardant et en voyant ces dissensions. Il y a nombre de personnes qui se demandent qui est réellement musulman. Ceux qui appartiennent à ce mouvement sont-ils musulmans ou est-ce ceux-là qui sont musulmans? Qui fait partie de la meilleure des oummas? Le saint prophète Mohammed a déjà présenté la solution. C'est une solution qui va résoudre ce problème. Il a déclaré que lorsque vous serez divisés en plusieurs groupes, Dieu va envoyer le Messie promis. Acceptez le Messie promis et présentez-lui mes salutations. Vous devez aller lui présenter mes salutations même si vous avez à ramper sur la glace. Vous devez lui transmettre mes salutations et lui prêter allégeance. C'est lui le Hakam et l'Adl. C'est lui qui va vous enseigner la charia. Il sera un juge juste et équitable. Et c'est lui qui va prouver la véracité de l'islam sur toutes les autres religions. C'est lui qui va présenter le message de l'islam au monde. D'une part, ceux parmi les musulmans qui ressentent une grande douleur à propos de l'islam doivent méditer à ce propos. D'autre part, cela donne de grandes responsabilités aux Ahmadis. Ils doivent faire de leur mieux pour être de la meilleure des oummas. Dieu a révélé au Messie premier qu'il doit réunir tous les musulmans sous la bannière de leur foi. Sous la bannière d'une seule foi. Il nous incombe donc de nous acquitter de nos devoirs. Les musulmans ont accepté cette dernière charia, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le Coran et ils ont accepté le dernier prophète de loi, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il n'y aura pas de nouvelle religion. C'est cette religion qui perdurera jusqu'au dernier jour. Ensuite, quelle est cette religion de laquelle Dieu a demandé au Messie premier l'Islam de réunir les musulmans? Cette religion, c'est l'islam. L'islam qui a été divisé en différentes écoles de pensée et en différents groupuscules.
Et le Messie, le Prophète,
L'imam de l'époque qui a été envoyé et qui a suivi les traces du saint prophète Mohammed, celui à qui Dieu a conféré le titre de Hakam et d'Adl, c'est lui qui a présenté les vrais enseignements de l'islam et l'exégèse véritable du Coran. Les commentaires et les exégèses présentés par les ulémas, les ahlims et les mujaddids des 1300 ans passés que l'on peut accepter comme justes sont des commentaires qui ont été certifiés par l'envoyé de Dieu, le Khatam al-Khulafa et le Hakam el-Adla, qui est le Messie premier l'Islam. Ce sont les commentaires certifiés par lui qui sont les commentaires véritables. Voilà donc la din ou la religion véritable sous la bannière duquel on doit se réunir. C'est pour cette raison que l'on doit mettre de côté toute dissension ou toute dispute ayant trait à la jurisprudence. La décision prise par le Messie premier l'Islam suite à l'ordre divin représente la vraie foi qui a été apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, toute la Oumma va devoir se réunir dans cette din, dans cette foi. Et aujourd'hui, les Ahmadis font partie de cette meilleure des Oummas pour ces raisons, c'est-à-dire pour la raison qu'ils sont unis. Et il leur incombe maintenant d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Et tout cela ne pourra pas se faire tant que les actions ne sont pas en accord à ces préceptes. Cela ne pourra pas se faire tant que l'on n'a pas une foi ferme en Dieu. Et cela ne pourra pas se faire non plus tant que l'on n'est pas animé d'un esprit de sacrifice en tant que Jamaat. Pour atteindre de grands objectifs, l'on doit faire des sacrifices. On va devoir rehausser le niveau de nos actes d'adoration et on va devoir aussi purifier ses biens. Dans la sourate Al-Hajj, à ce propos, Allah déclare « Alladhina in makkannahum fil ardi aqamu s-salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf » Ceux qui, si nous les établissons sur la terre, observeront la prière et paieront la zakat, et enjoindront le bien et interdiront le mal, et à Allah appartient la décision finale de toutes les affaires. Allah déclare que ceux que nous établissons fermement sur la terre jouissent d'un grand statut. Ils sont protégés de dissensions parce que spirituellement et religieusement ils sont protégés, ils sont derrière un bouclier. Si on lit ce verset de la sourate Al-Hajj avec le verset 56 de la sourate Nour, dans lequel Allah a promis le califat, nous allons constater que dans ce verset de la sourate An-Nur, Allah a promis d'établir solidement sur terre ceux qui vont faire de bonnes œuvres et ceux qui vont l'adorer. Lorsqu'un Ahmadi a prêté allégeance au Messie premier, la première bonne nouvelle qu'il reçoit est qu'après avoir prêté allégeance et après avoir suivi le système du califat, Dieu va le consolider sur terre. Et c'est ainsi qu'il va faire partie de la meilleure des oumas. Afin de s'acquitter de ses devoirs en tant que meilleur des oumas, l'on doit accomplir ses devoirs religieux, on doit rendre culte à Dieu, on doit enjoindre le bien et on doit aussi interdire le mal. Et l'on va devoir aussi répandre le message sublime de l'islam au monde. Et on doit aussi être un obstacle sur la voie du mal. On doit être un mur solide, soudé au plomb sur la voie du mal. Si en toute sincérité, un Ahmadi se prépare pour agir ainsi, Allah lui annonce qu'il va lui accorder son aide. Et comme je l'ai déclaré, tant que les musulmans ont agi ainsi, tant qu'ils ont pratiqué ces vertus, ils ont profité de l'aide de Dieu et ils ont fait partie de la meilleure des ummas. Mais quand ils ont oublié leurs responsabilités, ils ont été privés des faveurs divines. C'est un fait que j'ai évoqué la semaine dernière et j'ai évoqué ce verset « Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » C'est-à-dire que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas son état intérieur. Tant qu'ils vont pratiquer le culte de Dieu, tant qu'ils vont se purifier l'âme, tant qu'ils vont dépenser dans le chemin de Dieu, tant qu'ils vont interdire le mal et tant qu'ils vont répandre le bien, tant qu'ils seront liés au califat, ils seront consolidés dans leur foi. Et Allah transformera tout le temps leur état de crainte en état de paix. J'ai aussi déclaré que vous devez agir tous ensemble. C'est de concert que l'on va devoir enjoindre le bien et interdire le mal. Tout le monde n'a pas la même connaissance pour agir ainsi. Et chacun a ses propres occupations et chacun a ses responsabilités et certains n'arrivent pas à assumer toutes leurs responsabilités. Et l'on ne peut pas être prêt à tout instant pour accomplir ses travaux. Et on ne pourra pas tout le temps être prêt à répandre le message de l'islam. Et comme je l'ai déclaré, individuellement, c'est très difficile pour tout le monde. Et si même on arrive à consacrer son temps pour cela, pour accomplir cette tâche, on aura besoin d'argent. C'est pour cette raison que les membres des Jamaat divines font tout le temps des sacrifices financiers. Et ceux qui ne peuvent pas travailler individuellement sur le terrain doivent faire ces sacrifices afin donc que l'on puisse répandre le message de Dieu selon les plans qui ont été faits à l'époque des prophètes et selon les plans que l'on a faits plus tard sous l'égide de différents califats. Cela s'est fait à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ils devaient eux aussi faire des sacrifices financiers. C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, l'on trouve mention des sacrifices financiers dans le Coran. Ensuite, les Khulafa'i Rashidin ont aussi poussé les gens à faire ces sacrifices financiers. Et les croyants ont tout le temps fait des sacrifices pour cette cause. Ensuite, à l'époque du Messie premier, ces sacrifices ont perduré. Et après le Messie premier, au cours de chaque califat, par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat ont participer dans ces sacrifices. Et Inch'Allah, cela va perdurer jusqu'au dernier jour. D'aucuns pensent que lorsque la Jamaat va posséder de grands avoirs, lorsqu'on aura beaucoup d'argent, on n'aura pas besoin de faire des sacrifices. Mais cela est complètement faux. Dans chaque occasion, à chaque époque, on aura besoin de faire des sacrifices financiers. Car cela a été évoqué dans le Saint-Coran. Allah a déclaré que faire ces sacrifices financiers signifie se purifier l'âme. Le système de sacrifice financier au sein de la Jamaat a débuté avec le Messie premier, l'Islam. Il y a des contributions sur les recettes, il y a al-wasiya, mais il y a aussi d'autres plans au sein de la Jamaat. Et un des plans permanents est le Tahrik Jadid, plan qui a été lancé par le deuxième calife, radhiyallahu anhu. Le but de ce plan, selon le deuxième calife, était de propager le message de l'islam hors de l'Inde et du Pakistan. Et par la grâce d'Allah, nous voyons aujourd'hui les résultats positifs. Et l'Ahmadiyya est répandue dans 193 pays du monde. La Jamaat est soit établie fermement dans ces pays ou dans d'autres pays. Ces Jamaat sont en train de progresser. Les Ahmadis de ces 193 pays sont en train de présenter l'image d'une seule Oumma. Par la grâce d'Allah, là où la Jamaat est établie, l'on participe à ces sacrifices financiers. Il y a des Jamaat qui progressent rapidement, il y a d'autres qui vont plus lentement. Et grâce à la tarbiyah, nous voyons de progrès et nous voyons que les gens font davantage de sacrifices. Quelques années de cela, nous avions la Jamia pour préparer les missionnaires Karabwa au Pakistan. Et chaque année, tout au plus, il n'y avait que 30 ou 35 nouveaux étudiants. Mais depuis que les Wakfenaw ont grandi, à Rabwa, chaque année, il y a plus de 200 étudiants qui sont admis à la Jamia. Et il est évident que pour cela, on va devoir faire davantage de dépenses. Et par la grâce d'Allah, la Jamaat du Pakistan est en train elle-même de subvenir à ses dépenses. Maintenant, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en Indonésie, on a établi d'autres Jamiat. Et dans ces pays, chacun est en train de subvenir à ses dépenses. Mais il y a aussi des Jamias au Bangladesh, au Nigeria, au Ghana, au Kenya et dans d'autres pays. Et ces pays reçoivent de l'aide de la part du centre pour faire tourner leurs Jamias. Et à part cela, il y a d'autres dépenses à faire. Il y a des littératures à préparer, il y a aussi des ouvrages à publier. Il y a la construction de mosquées dans les pays pauvres et sans l'aide du centre, on ne peut pas bâtir ces mosquées. Et il y a aussi le fait que l'on doit envoyer des missionnaires et on doit payer leurs soldes. Tout cela est subvenu par le centre. Et les recettes du Tahrik Jadid sont utilisées pour ces dépenses. Grâce au Tahrik Jadid, on a pu propager le message de l'islam hors de l'Inde. Mais ensuite, la Jamaat a commencé à grandir, à progresser dans ce pays. Donc, les recettes du Tahrik Jadid sont utilisées pour ces dépenses. Et tout Ahmadi, grand et petit, participe dans ce programme. Et ils peuvent dire fièrement que nous sommes de cette Oumma qui interdit le mal et qui enjoint le bien. Tous ceux qui font ces sacrifices financiers dans leur cercle respectif, ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Et on attend que les Ahmadis doivent agir ainsi et vont agir ainsi. Les sommes que les Ahmadis ordinaires présentent comme sacrifices ici au Royaume-Uni ou ailleurs en Allemagne ou aux États-Unis ou au Canada, les sommes qu'ils présentent en Australie ou en Hollande ou en France ou dans n'importe quel pays de l'Europe ou d'ailleurs, il se peut très bien que cette somme qu'ils ont contribuée soit utilisée pour la tarbiya d'une personne de bonne nature au fin fond de l'Afrique. Cette somme peut être utilisée pour interdire le mal. Et comme il a été dit dans le Saint-Coran, qu'il faut qu'il y ait dans chaque peuple des gens qui vont acquérir la connaissance de l'islam et qui vont inviter vers l'islam. Il y a des dépenses à faire sur ces personnes qui vont accomplir ces tâches. Et les Ahmadis participent dans ces sacrifices et vont recevoir eux aussi en retour les récompenses que vont recevoir ces personnes. Ces sacrifices consentis par les Ahmadis élargissent donc le cercle de Ta'maruna bil Ma'rufi wa Tanhauna 'anil Munkar. Je vais maintenant présenter les détails concernant l'année écoulée du Tahrik Jadid et je vais aussi annoncer la nouvelle année de la Tahrik Jadid. En voyant ces recettes du Tahrik Jadid et en voyant les grâces de Dieu, l'on ne peut qu'être poussé en tant que croyant que de prouver sa reconnaissance envers Dieu. Un Ahmadi ne peut être que davantage reconnaissant envers Dieu. Le monde sait que l'année écoulée fut la pire économiquement. Cela a affecté négativement le commerce, cela a affecté les emplois, certains ont été licenciés. Il y a eu de l'inflation et cela a affecté les ménages. Conséquemment, cela aurait dû affecter négativement les contributions et les recettes du Tahrik Jadid. Mais cette Jamaat du Messie premier al-Salam a prouvé qu'elle est la meilleure des Ummah. En dépit de cela, nous avons prouvé le contraire. Mais jamais nous ne pourrons assez remercier Dieu pour cela. Nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu, car les faveurs divines sont illimitées. Je vais maintenant présenter les chiffres concernant ce plan du Tahrik Jadid. Donc l'année écoulée du Tahrik Jadid était la 75e année de la Tahrik Jadid. Je ne vais pas présenter les rapports concernant le premier daftar, le deuxième ou le troisième. Le deuxième daftar, c'est-à-dire le deuxième registre, a débuté 19 ans après le lancement de ce plan et en 1966, le deuxième calife a lancé le troisième daftar et en 1986, le quatrième calife a lancé le quatrième daftar et je crois qu'en 2005, j'ai lancé le cinquième registre du Tahrik-e-Jadid et j'ai déclaré que les nouveaux-nés et les nouveaux Ahmadis doivent participer dans ce 5e daftar. Donc, maintenant débute la 76e année du Tahrik Jadid. Et selon les rapports reçus par la grâce d'Allah, cette année-ci, les jamaats du monde entier ont contribué 4 953 800 livres sterling. Et on a contribué par la grâce d'Allah 850 000 livres de plus que l'année dernière. Et dans les 10 premiers jamaats, il y a en tête de liste le Pakistan. Le Pakistan est premier en dépit de la pauvreté des gens. En deuxième position, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Allemagne. En troisième position, il y a ensuite le Royaume-Uni. Ensuite, il y a le Canada, l'Indonésie, l'Inde, l'Australie, la Belgique et la Suisse. Il n'y a qu'une différence de 1500 livres entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Je croyais que le Royaume-Uni allait maintenir sa troisième position, mais l'Allemagne a fait de grands efforts. À part cela, on doit mentionner l'île Maurice, le Nigeria, la Norvège, la France, les Pays-Bas et deux ou trois pays du Moyen-Orient. On doit aussi présenter ceux qui ont fait de grands progrès dans leur monnaie locale, car à raison de la crise économique, les monnaies locales ont été affectées et les pays pauvres ont beaucoup été affectés par le taux de change. Donc je vais présenter la liste des pays qui ont fait de grands progrès dans leur monnaie locale. L'Inde est en première position, il y a une augmentation de 42,19%. Et la Wakalat-e-Mal a travaillé beaucoup pour pouvoir atteindre cet objectif. En deuxième position, il y a l'Allemagne, où il y a eu une augmentation de 32,80%. Ensuite, il y a l'Australie avec une augmentation de 18%, le Royaume-Uni avec 17% d'augmentation. Ils ont fait d'efforts, mais nous voyons que l'Allemagne a fait le double. Alors que la Jamaat de l'Allemagne déclare que bon nombre d'Ahmadis de l'Allemagne sont venus au Royaume-Uni. Il y a la Belgique avec 12,20%, la Suisse avec 9% d'augmentation, le Pakistan avec environ 9% d'augmentation, le Canada avec 6% et l'Amérique avec 3%. Le fait que les États-Unis d'Amérique aient fait 3% d'augmentation ne signifie pas qu'ils ont atteint leur niveau maximum. Ensuite, l'Indonésie a fait 2% d'augmentation. J'ai encouragé plus de personnes à participer dans le fonds du Tahrik Jadid. J'ai demandé qu'on doit aussi encourager les enfants à y participer. Les jamaats ont donc fait d'efforts pour cela. Et par la grâce d'Allah, il y a 90 000 nouveaux contributeurs dans le fonds du Tahrik Jadid. Et maintenant, en tout, il y a 593 000 nouveaux contributeurs. L'année dernière, il n'y avait que 500 000, mais on peut faire mieux. Et l'Inde est en tête de liste concernant le nombre de nouveaux contributeurs. Il y a 32 200 nouveaux contributeurs cette année-ci en Inde. Le Pakistan en deuxième position, il y a 14 228 nouveaux. Le Nigeria, 9 013. La Sierra Leone avec 5 333. Le Bénin 2425, la Jama du Bénin est très petite, mais elle est en train de progresser. En Gambie, il y a 2272 nouveaux contributeurs et au Royaume-Uni, 2046. Le Canada avec 1713 nouveaux contributeurs, Kenya avec 1576 et le Bangladesh avec 1119. Il y avait donc les 5000 premiers contributeurs du Tahrik-e-Jadid et maintenant tous leurs détails ont été placés sur les sites web de l'islam et les descendants de ces premiers contributeurs peuvent contribuer en leur nom. Concernant les grandes jamaats du Pakistan, en premier il y a Lahore, en deuxième position Rabwa et en troisième position Karachi. À part cela, dans les villes, il y a en premier lieu Rawalpindi, Islamabad, Sheikhupura, Hyderabad, Bahawalnagar, Bahawalpur, sixième position, Peshawar en septième position. À Peshawar, donc, ils ont fait de grands progrès et cela en dépit du fait que quotidiennement, il y a des attentats. Donc, en dépit de ces attentats, ils ont fait de grands sacrifices. Jhelum en 6e position, Kotlir Azad Kashmir en 9e position. Priez pour les gens de cette région parce qu'ils font face à de grandes difficultés. Qu'Allah leur accorde la paix et la tranquillité. Khanewal en 10e position. Et il y a beaucoup d'opposition au Kashmir. Les 10 premiers districts du Pakistan sont Sialkot, Sargodha, Gujranwala, Omarkot, Okara en 5e position, Mirpurkha 6e position, Narowal 7e position, Faisalabad, Mirpur Azad Kashmir, et Hafizabad et Sangar en 10e position. Il y a d'autres petits jamaats qui ont fait de grands progrès par la grâce d'Allah. Dans les 5 premières jamaats des États-Unis d'Amérique, il y a la Silicon Valley en premier lieu, Los Angeles West en deuxième position, Détroit en troisième position et Chicago en quatrième position. Il y a eu un plus grand nombre de contributeurs dans le 5e registre aux États-Unis d'Amérique. Il y avait donc ces enfants de moins de 5 ans qui ont participé dans le fonds du Tahrik-e-Jadid. 80% de ces enfants ont participé dans ce fonds avec une contribution de $20 par enfant. Ils m'ont envoyé des photos à ce propos. On doit donc pousser les enfants à faire ces sacrifices afin qu'ils aient cette habitude à l'avenir. Les 4 premières jamaats du Canada sont Calgary Northwest, Peace Village East, Peace Village Center et Surrey East et Vancouver. Les 10 premières jamaats du Royaume-Uni sont la jamaat de la région de la mosquée de Londres, ensuite il y a Surbiton, Cambridge, Gillingham, New Malden, Birmingham, Worcester Park, Purley, South East London et Oxford. Parmi les petits jamaats, il y a Scunthorpe, Devon and Cornwall, Wolverhampton, North Wales, Spain Valley, Bristol, Peterborough, Aldgate, Leamington Spa et Keighley. Parmi les régions du Royaume-Uni, il y a la région de Londres, la région du Sud, la région du Nord-Est, Hertfordshire, South-West et East London. Et il y a aussi ces jamaats de l'Allemagne qui ont fait plus de progrès de contribution par tête. Il y a la mosquée de Mehdiabad. Il y a aussi la jamaat de Mainz-Wiesbaden, Grossgrau, Pfanzheim, Deburg, Marburg, il y a la jamaat de Cologne, de Heidelberg et de Riedstadt. Et il y a aussi d'autres jamaats qui ont fait de grands progrès en Allemagne. Lorsque l'on a poussé davantage de membres à contribuer dans le fonds d'Al-Wasiya, certains croyaient que cela allait affecter les autres contributions. Mais les chiffres ont prouvé que, par la grâce d'Allah, le nombre de contributeurs a augmenté et la contribution aussi a augmenté. Alhamdulillah. Nous devons remercier davantage Dieu pour cela. Et cela nous fait comprendre aussi qu'Allah va élargir davantage nos tâches. Et pour cela, il est en train de nous préparer et de nous réveiller. Il est en train de nous pousser à faire davantage de sacrifices. Inch'Allah, ces tâches vont s'élargir. Et il nous fait comprendre que nous ne devons point nous soucier de crise économique. Il déclare, faites votre commerce avec moi et moi je vais vous donner davantage. Qu'à la fasse que nous puissions progresser davantage dans notre foi. Qu'Allah augmente nos sacrifices et que nous puissions progresser davantage et que nous puissions voir la victoire. Le musulman Maoud radiallahu anhu a déclaré à propos du Tahrik al-Jadid que c'est une fondation pour Al-Wasiya. Le Tahrik al-Jadid est donc une fondation pour le fonds d'Al-Wasiya. Cela va pousser davantage de gens à participer dans le fonds d'Al-Wasiya et de faire des sacrifices. Il y a eu donc des progrès dans les deux domaines, dans le domaine d'Al-Wasiya et du Tahrik al-Jadid. Et il y a eu de l'augmentation dans ce cinquième registre. Et il est évident à la lumière de tout cela que les enfants qui y participent et les nouvelles générations, ceux qui sont en train de grandir et ceux qui sont dans la Falul Ahmadiyya sont en train de se préparer en faisant des sacrifices pour le Tahrik al-Jadid. Ils sont en train de se préparer pour participer dans le fonds d'Al-Wasiya. Les économistes déclarent que lors des crises financières, il y a un cercle vicieux de la pauvreté qui commence à affecter les gens. Mais lorsqu'Allah fait progresser sa jamaat, il les fait progresser dans leur contribution en dépit des crises financières. Et il les pousse à faire davantage de sacrifices. Et c'est ainsi que Dieu Ar-Rahman nous prend dans son giron. Et il nous fait comprendre l'importance du verset Fastabiqul Khairat. Tant que nous allons progresser dans le domaine de la vertu, tant que nous allons astiquer davantage ces qualités, nous serons de la meilleure des ummah, Inch'Allah. Une personne qui contribue le peu qu'elle possède et un enfant qui sacrifie les quelques sous qu'il possède de son argent de poche est utilisé pour la propagation du message de l'islam et pour la construction des mosquées. Donc il participe dans ses efforts grâce à leur sacrifice. Qu'Allah fasse que cet esprit de sacrifice perdure parmi nos enfants et parmi nos descendants et que nous puissions acquérir le plaisir de Dieu et que nous soyons les héritiers de ses faveurs. Amin.